Donc, nous sommes le mardi 30 mars au domicile de M. Steinberg que nous allons interviewer pour la troisième fois. Nous allons commencer par votre enfance, dans la mesure où certaines choses ou votre éducation ont pu jouer un rôle dans votre orientation professionnelle, dans votre carrière de scientifique.
Bon, alors d'abord, je dois vous dire que je suis le premier enfant d'une famille où il y a eu trois fils. Et mes parents, vers l'âge de 4 ans, mes parents m'ont mis dans une école qui s'appelle l'école alsacienne, qui était une école privée, qui a été fondée par des Alsaciens qui n'ont pas voulu rester en Alsace quand elle a été conquise par les Allemands. Et cette école alsacienne est une école où la majorité des gens sont protestants. Mais surtout, elle avait une caractéristique qui a décidé ma mère, à savoir que c'est une école qui était mixte. Il y avait des garçons et des filles, alors qu'à cette époque-là, dans les écoles publiques, il n'y avait que des garçons d'un côté, des filles de l'autre. Et ma mère était profondément féministe et elle a estimé que ses enfants devaient être élevés dans une école mixte. Alors j'ai été à l'école alsacienne quand j'avais 4 ans, c'est-à-dire en 26, puisque je suis né en 1922. Et j'y suis resté 10 ans. Et j'ai fait toutes mes études là, jusqu'à ce que mes parents aient un troisième enfant et que la situation économique évolue dans un sens défavorable. Et à ce moment-là, mes parents m'ont sorti de l'école alsacienne et ils m'ont mis au lycée Louis-le-Grand. Et j'étais à cette époque-là en troisième, si je ne me trompe pas. Et je suis resté une année et demie au lycée Louis-le-Grand et... Quand j'étais en seconde, je me suis fait expulser du lycée Louis-le-Grand parce que j'ai chahuté de façon trop claire et trop pertinente. Visiblement, c'était, maintenant je peux le dire, je pense que c'était la crise d'adolescence. Je ne tenais pas en place et j'ai participé à des tas de chahuts, etc. Finalement, on m'a mis à la porte du lycée Louis-le-Grand. Et alors là, ma pauvre mère a été obligée de pleurer au lycée Buffon pour me faire rentrer au lycée Buffon. Alors, je suis rentré au lycée Buffon en seconde. J'y suis resté quelques semaines. On m'a rétrogradé en troisième. Et en troisième, je me suis fait vider en 8 jours. Parce qu'un jour, je me suis levé, étant dans le premier rang de la classe. Et j'ai fait signe à mon voisin, avec ma main sur la joue, que je m'embêtais, que c'était pas drôle, etc. Le prof a considéré que c'était pas tolérable. Il m'a mis dehors. Et là, du coup, mes parents m'ont remis à l'école alsacienne, parce que comme c'était payant, on m'a pris. Et j'ai terminé l'année à l'école alsacienne. Et à la fin de l'année, mes parents m'ont envoyé au lycée Saint-Louis, qui est Boulevard Saint-Michel, qui était considéré comme un lycée avec une discipline très serrée. Et en fait, il ne m'est plus rien arrivé, aucun problème. Je n'ai plus eu aucun problème de discipline. Et j'ai fait la suite de mes études, y compris mathématiques spéciales préparatoires au lycée Saint-Louis. Et alors, au cours de ces années-là, probablement à mon anniversaire, mais j'en suis pas sûr, ma mère m'a fait un cadeau qui a marqué ma vie. Elle m'a fait cadeau du livre de Ève Curie, qui est la fille de Madame Curie. Ce livre s'appelle Madame Curie, et c'est l'histoire de la vie de Madame Curie. Alors, Madame Curie est une physicienne française qui était d'origine polonaise. Et cette dame est venue en France, elle ne parlait pas un mot de français, elle a pris le français, elle a fait ses études supérieures, primaires, secondaires et supérieures en France. Elle a épousé un Français qui s'appelait M. Curie. Elle a fait de la recherche scientifique pendant toute sa vie et elle a eu 2 fois le prix Nobel. Alors les gens qui ont le prix Nobel sont des gens éminemment respectables et éminemment honorables et qui sont considérés comme des héros dans n'importe quel pays. Et là, en l'occurrence, elle n'a pas eu le prix Nobel, elle a eu 2 fois le prix Nobel, pour 2 fois des découvertes majeures. Alors, moi, j'ai lu ce livre avec passion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien, peut-être 20 fois. Et au bout de 20 fois, j'ai été voir ma mère, et je lui ai dit, écoute, maman, je veux être chercheur scientifique. Et c'est comme ça que j'ai finalement décidé d'être chercheur scientifique, et que je l'ai été.
Vous pensez que c'était... que ce choix de cadeau de la part de votre mère, d'une femme qui était scientifique...
Ça, je ne peux pas dire. Elle ne m'a pas fait de confidence, mais avec le temps, je pense qu'elle a fait, elle n'a pas fait par hasard. Elle a fait ça parce que ça me donnait des ouvertures sur le futur que je pouvais avoir à cette époque-là, etc. Et c'est une action que très peu de parents font d'ailleurs, puisque aujourd'hui on voit bien dans tous les journaux et dans toutes les affiches qu'on voit partout que les gosses adolescents ont toutes les peines du monde à décider qu'est-ce qu'ils vont faire dans la suite. Eh bien, moi, je n'ai pas eu à décider. Ma mère m'a fait cadeau ce livre, ça m'a marqué pour la vie. Et j'ai été chercheur scientifique.
Vous aviez dans votre famille des précédents de scientifiques ?
Oh non, non, absolument pas. Je n'ai pas de précédent scientifique. Mon père venait d'une famille d'immigrés. Et dans cette famille d'immigrés, il y a eu 9 enfants, une fille et 8 garçons. Parmi les garçons, il y en a 3 qui sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et ils avaient tous été formés comme bijoutiers, comme orfèvres, tous sans exception. Et mon père a donc été ouvrier orfèvre pendant des années et des années, jusqu'à ce que la crise économique fasse que les gens n'avaient plus envie d'acheter des bijoux ou n'avaient plus les moyens d'en acheter. Alors il a vendu le magasin ou l'atelier qu'il avait. Et il a cherché une autre occupation et il a acheté un petit atelier où il y avait 5-6 ouvriers qui fabriquaient des bagages à main, des bagages en cuir. Et ils ont construit des bagages en feu, ils ont produit des bagages en cuir pendant des années et des années, jusqu'à ce que l'aggravation de la crise économique fasse que les gens voyageaient de moins en moins. Alors, visiblement, mon père et ma mère se sont dit, ah ben, étant donné que la vie devient de plus en plus difficile pour tout le monde, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est d'acheter et de vendre à manger. Alors, ils ont acheté une entreprise qui était dans le 14e arrondissement, avenue du Maine. Et dans cette entreprise, il y avait en tout et pour tout un vague atelier, un vague magasin et deux camions Ford. Et un de ces camions a été conduit par un employé, l'autre était conduit par mon père. Et avec ces camions, ils allaient aux Halles le matin, très tôt, ils achetaient du fromage. Et ensuite de ça, ils le vendaient aux crémiers. Alors c'est une activité qui est complètement terminée aujourd'hui. Les crémiers, ils vont acheter directement leur fromage aux Halles. Mais à cette époque-là, visiblement, il y avait un intermédiaire. Et mon père a fait ce métier jusqu'à ce que les lois antisémites et anti-juives lui interdisent d'avoir une activité quelconque. À ce moment-là, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est devenu vendeur de meubles dans le 14e arrondissement, chez un patron qui était non-juif, bien entendu, et quand mon père faisait ce travail-là, et ben, il était illégal complètement, parce que le métier de vendeur, qui était un métier avec le contact avec le public, était interdit à ceux qui étaient étiquetés comme juifs. Et mon père, à ce moment-là, il était aussi étiqueté comme juif, mais il n'a jamais porté les fameuses étoiles jaunes qu'on nous a imposées. Et donc, il était illégal de deux façons. Il exerçait un métier interdit aux juifs et il ne portait pas son étoile. Mais ça a duré toute la guerre. C'est comme ça qu'il a permis à la famille de vivre. Et qu'ils ont élevé 3 gosses. Donc, je suis l'aîné. Ensuite, il y a eu Claude qui est né en 25, 3 ans après moi. Et ensuite... Il y a eu une petite fille qui s'appelait Annie, qui est morte à environ 2 ans d'une maladie qu'on ne savait pas soigner à cette époque-là. Et ensuite, j'ai retrouvé dans le courrier de ma famille une lettre de ma mère à mon père, dans laquelle elle pleurait en disant « Est-ce que tu crois vraiment qu'on est encore capable de faire un autre enfant ?» Et visiblement, ils voulaient remplacer la petite fille qui était morte. Et finalement, ils ont fait un autre enfant qui s'appelle Michel, qui a survécu. Voilà, en gros, l'histoire de ma famille. Il y a eu 3 gosses et il y en a 2 qui ont survécu au massacre et un qui a été massacré à 20 ans.
Et c'était Claude. Votre plus jeune frère Michel, vous l'avez ensuite élevé.
Ah oui, quand on a commencé à en vivre ensemble avec celle qui a été ma femme pendant 62 ans, avec Madeleine, on a adopté Michel tout de suite. On a estimé, et elle était d'accord avec moi, que... on ne pouvait pas le laisser tomber comme ça, qu'il fallait s'en occuper. Alors on l'a pris en charge comme si c'était notre gosse à nous. Et on l'a pris en charge quand on s'est marié en 46. Et ensuite, on a voulu un enfant à nous et on a eu un enfant en 48. Ce qui fait qu'en fait, on a élevé 2 enfants. Quand nous avons pris Michel chez nous, il avait 9 à 10 ans.
Et vous aviez quel âge vous-même ?
Eh bien, ça s'est produit en 46. J'avais donc 24 ans et elle en avait 25. Madeleine avait 15 mois de plus que moi. ça ne me paraît pas être un drame.
Et donc, vous faites vos classes préparatoires au lycée Saint-Louis ?
Oui.
Et ensuite, vous continuez ?
Alors, au lycée Saint-Louis, ça a duré jusqu'en 1939. En 1939, j'avais 17 ans. Et là, le gouvernement a décidé que les jeunes qui préparaient ce qu'on appelle qu'on appelle toujours d'ailleurs les grandes écoles, ils ne pouvaient pas rester à Paris, que c'était trop dangereux. Alors, j'ai été obligé de faire mes années suivantes ailleurs, en l'occurrence à Orléans. Et comme mes parents vivaient toujours à Paris, j'ai été interne au lycée d'Orléans, le lycée Potier à Orléans. Et j'ai fait ma mathématique spéciale, si je ne me trompe pas, à Orléans. Et à la fin de cette année-là, je suis rentré à Paris et puis j'ai commencé à faire des études supérieures à l'université. Alors, l'université était interdite aux Juifs, par ceux qui étaient définis comme Juifs. Mais dans mon cas, on m'a laissé faire des études pour une raison précise, c'est que mon père était ancien combattant, qu'il avait été décoré, etc., etc., qu'il était né en France de parents français. Et moyennant ces trois conditions, né en France de parents français, ancien combattant et qui plus est décoré sur le front de Verdun, du coup, on m'a autorisé à faire des études supérieures pendant l'occupation. Alors que la plupart des Juifs, on leur a interdit de faire des études. Alors j'ai fait ma licence de sciences en 2 ans. Et au bout de 2 ans, comme ma mère m'avait fait cadeau du livre d'Ève Curie, j'ai voulu faire de la recherche à tout prix. Et je suis rentré à la Sorbonne dans un laboratoire qui était dans les combles. Et j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelait M. Vaudard, dans un laboratoire qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait M. Darmois. Et là, j'ai fait de l'optique. J'ai fait de l'optique appliquée. J'ai développé de l'optique et j'ai travaillé avec ce monsieur Vaudard. Et j'ai obtenu un certain nombre de résultats d'ingénierie. Et au point que on m'a donné le titre qu'on appelle le test de docteur ingénieur. Alors j'ai fait une thèse de docteur ingénieur et sur des observations, sur des moyens techniques d'optique. Alors pour faire une thèse de docteur ingénieur, il faut évidemment la soutenir devant un jury. Et je dois vous dire qu'on a eu toutes les peines du monde à trouver un jury pour me faire faire cette thèse, pour me faire soutenir cette thèse. Et je ne sais pas très bien pourquoi ça a mis tellement de temps, ou ça a été tellement difficile. Peut-être ça a été difficile parce que la thèse n'était pas très bonne, c'est possible, j'en sais rien. Peut-être qu'elle était effectivement pas très bonne. Mais peut-être était-ce aussi parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas envie de faire soutenir une thèse à un juif. Parce qu'à cette époque-là, c'était peut-être mal vu, enfin j'en sais rien. Mais j'ai pas de précision sur les raisons qui ont fait que j'ai pu passer ma thèse d'ingénieur docteur. Et finalement, je l'ai soumise. Et puis, on a été arrêté en juin 1944 et déporté.
Vous dites « on », parce que vous étiez avec votre père, votre mère.
On a été arrêté chez nous, le 18 juin 1944, après le débarquement. Et il y avait chez nous mon père, ma mère, mon premier frère, Thierry Claude, qui avait 3 ans de moins que moi. Mais Michel, le petit dernier, n'était pas là. Il était en vacances dans une ferme en Normandie, que j'avais trouvé par le plus grand des hasards, parce que pendant l'occupation, moi, je suis rentré en résistance, en fait, avec le Parti communiste. Et à une certaine époque, en 1942, quelque chose comme ça, nos camarades de la résistance ont trouvé que mon groupe, les 2 ou 3 qu'on était ensemble à militer à cette époque-là, ils ont trouvé qu'on était trop nerveux.
Nerveux ? Alors, nerveux, c'était...
Trop nerveux et qu'on ne pouvait pas se contrôler suffisamment, et par conséquent, on était en danger d'être dénoncé ou d'être pris, etc. Alors, ils ont dit, non, il faut que vous vous arrêtiez de vous agiter comme ça pendant un certain temps, et vous devriez partir en vacances. Alors, on est parti en vacances avec les 2 autres camarades de ce qu'on appelait un triangle, c'est un groupe de 3 clandestins, de 3 clandestins. On a été se promener en Normandie. Et on campait avec une tente que j'avais, et on couchait sous la tente et on se baladait à pied, bien entendu, avec un sac à dos. Et on a été, un soir, on s'est installé chez une dame qui était dans un petit village, un très petit village au nord de Fleur de l'Orne. Et cette dame était là, elle avait 2 petites filles d'environ 10 ans. Son mari était prisonnier de guerre depuis des années. Et elle nous a autorisé à camper chez elle. Alors on a campé chez elle. Et elle nous a vendu toute la nourriture qu'on voulait bien qu'elle produisait. Elle nous a vendu du lait, elle nous a vendu de la crème fraîche, elle nous a vendu du beurre, toutes sortes de produits qui étaient introuvables à Paris à cette époque-là. Ou s'ils étaient trouvables, c'était pour des prix invraisemblables. Elle nous a vendu tout ça au prix normal et non pas au prix de ce qu'on appelait le marché noir. Et un matin, elle est venue nous voir, elle nous a dit « Ah, le débarquement a eu lieu ». Alors nous, on a pensé que c'était le grand débarquement qu'on attendait depuis des mois et des mois et que donc il nous fallait rentrer à Paris. En fait, ce n'était pas le grand débarquement qu'on attendait depuis des mois et des mois, c'était un débarquement qui a eu lieu à Dieppe, où les Alliés ont débarqué des unités canadiennes pour voir comment les Allemands réagissaient à un débarquement. Et là, bon, j'ai pensé à une chose, j'ai dit à cette dame, écoutez, dans les villes, et en particulier à Paris, la vie est insupportable, il n'y a rien à manger, on a toutes les peines du monde à donner à manger aux enfants. Est-ce que vous prendriez mon petit frère en vacances ? Elle m'a dit oui tout de suite. Et elle ne m'a même pas posé de problème financier. On n'a même pas discuté finances. Et je suis rentré à Paris et il s'est avéré que ce débarquement n'était pas le dernier débarquement. Et c'est comme ça que, quand on a été arrêté en 1944, Michel était en vacances chez cette dame. Et ça lui a sauvé la vie. C'est comme ça qu'il a survécu.
Ensuite, il est resté chez elle pendant toute la durée de la guerre et vous l'avez retrouvé.
Alors, il est resté jusqu'à la fin de la guerre. Mais là, au moment de la libération de Paris, nous avions un certain nombre d'amis à Paris qu'on ne fréquentait plus puisqu'on était arrêtés. Mais ces amis-là savaient que le gosse était dans une ferme en Normandie. Ils ont été chercher le petit. Ce qui fait que quand je suis rentré de déportation, j'ai trouvé Michel dans l'appartement où on avait été arrêté en 1944. Et il était là avec la sœur de ma mère, son mari, leur fille. Et ils étaient quatre dans l'appartement, qui était complètement vide d'ailleurs, parce que les Allemands avaient tout vidé. C'est-à-dire pas les Allemands qui avaient vidé, c'était des bons Français. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà.
Et donc, quand vous passez, pour en revenir à votre thèse, que vous avez eu du mal.
La thèse de docteur ingénieur.
La thèse de docteur ingénieur, c'était difficile de réunir un jury. Qui était votre directeur de thèse, votre patron ?
C'était Monsieur Darmois.
Monsieur Darmois.
C'était Monsieur Darmois. C'était un professeur à l'époque, un enseignant. Et c'était lui qui était directeur de thèse. Mais en fait, la direction de thèse au jour le jour, c'était ce Monsieur Vaudard. Et c'était un gars très compétent et très, très gentil et très efficace avec lequel j'ai travaillé avec grand plaisir. Mais quand je suis rentré de déportation, j'ai voulu aller travailler dans un labo plus moderne. Et d'ailleurs, je crois que Vaudard était à la retraite à ce moment-là. Donc j'ai cherché un laboratoire et puis j'ai réalisé qu'il y avait un labo tout neuf rue Lomont qui était le labo de l'école normale supérieure, le labo de physique de l'école normale supérieure. Et j'y suis allé. Et ce laboratoire était vide. Il y avait ce qu'on appelait un agrégé préparateur ou deux agrégés préparateurs et un ou deux chercheurs qui restaient. Et c'était tout. Et je m'y suis trouvé là avec un certain nombre de gens qui traînaient dans les couloirs, dont Jean-François Denis, avec lequel j'ai travaillé ensuite pendant des années et des années. Il n'y avait pas de directeur. Et la raison est la suivante, c'est que les trois directeurs précédents avaient été massacrés à différents titres. Il y avait M. Abraham et M. Bloch qui ont été directeurs successifs du laboratoire de physique de l'école normale supérieure. Ils ont été arrêtés et déportés parce qu'ils s'appelaient Abraham et Bloch. Et simplement, donc, ils étaient étiquetés comme juifs. Et le troisième, il s'appelait M. Brulat, Georges Brulat. Et Georges Brulat était un très grand physicien qui a écrit beaucoup de livres pour l'enseignement supérieur. Et lui, il a été arrêté par la Gestapo et déporté. Parce que la Gestapo lui a demandé des informations sur un certain nombre d'élèves et sur un technicien, il n'a pas voulu donner. Et en conséquence de quoi, c'était une activité de résistance. Il a été déporté à Buchenwald en août, je crois. Et en janvier suivant, il était mort. Et donc il n'y avait plus de directeur au labo de physique de l'école normale supérieure. Et là, je ne sais pas qui a désigné Yves Rocard comme directeur. Alors Yves Rocard était un homme qui était dans la résistance en France pendant l'occupation. Et au bout d'un certain temps, les Anglais avec lesquels il était en contact en tant que résistant ils ont compris, qu'ils ont conçu et pensé qu'il était, il était en danger, qu'il risquait de se faire arrêter. Et en conséquence de quoi, ils sont venus le chercher avec un avion. Et ils l'ont embarqué en Angleterre et ils l'ont mis travailler dans un laboratoire de radar. Et dans ce laboratoire de radar, il a appris que dans certains cas, les radars anglais étaient brouillés par un bruit qui arrivait dans l'espace. Et ils avaient, comme un radar mesure la direction des sources qu'il reçoit, eh bien, ils ont constaté, avec des études assez complexes, que cette source, c'était le Soleil. Et c'est comme ça que les Anglais ont découvert le rayonnement radio du Soleil, c'est-à-dire le début de la radioastronomie. Et donc, Rocard connaissait l'existence de la radioastronomie. Quand il est rentré donc en France et qu'il a été nommé directeur du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, il a décidé de créer une équipe de radioastronomie. Alors, il a interrogé les uns après les autres tous les gens qu'il a trouvés dans les couloirs de l'observatoire qui n'avaient rien à faire. Et il a convoqué un, puis deux, puis trois, puis Denis, et puis un jour moi. Et à tous les deux, il nous a proposé de faire de la radioastronomie. C'était un domaine qu'on ignorait entièrement, on ne savait pas ce que c'était. Alors, on s'est lancé là-dedans tout de suite. Et Denis s'est lancé dans ce qu'on appelle la physique des plasmas, parce que la plupart des émetteurs de radio à l'échelle globale, à l'échelle universelle, ça s'émet dans des plasmas. Et moi, je me suis lancé dans le développement de récepteurs parce que j'étais plus bricoleur que Denis et ça me passionnait plus. Donc, et puis ensuite de ça, y a des gens qui sont venus, entre autres Bloom est venu au bout d'un certain temps, très peu de temps d'ailleurs, il a développé aussi des récepteurs. Et puis, on a embarqué des tas de jeunes, les uns derrière les autres, dont Le Queux, qui était lui normalien, et puis Le Roux, et puis une série d'autres. Et puis, voilà. Alors, on est resté à l'École normale supérieure pendant environ une dizaine d'années. Et au bout de ce temps-là, Rocard a décidé que la radioastronomie, c'était une science d'astronomique. Par conséquent, ça devait être développé plus ou moins à l'Observatoire de Paris. Et d'autre part, il voulait surtout remplacer les équipes de radioastronomie par des gens pour faire de la physique des solides. Alors il a embauché un gars qui s'appelait Pierre Aigrin. Et avec Pierre Aigrin, ils ont créé un groupe de physique des solides. Et la radioastronomie est partie progressivement à l'Observatoire de Paris, où le directeur Danjon avait compris qu'on ne pouvait pas faire de l'astronomie indéfiniment avec de la lumière, mais qu'il fallait aussi étudier les ondes radio. Et le groupe de radioastronomie a été installé à Meudon. Et au bout d'un certain temps, je suis allé rejoindre Blum et Denis à l'Observatoire de Meudon. Et j'ai continué à faire de la radioastronomie à Meudon pendant toute ma vie, ou presque.
Vous avez vécu dans le 14e arrondissement quand vous étiez enfant. Vous connaissiez l'existence de l'Observatoire de Paris ?
Oui, mais je savais qu'il existait, c'est tout. Je ne me souviens pas de l'avoir visité en quelque occasion que ce soit. C'est l'occasion qu'on m'a proposé de faire de la radioastronomie. C'est comme ça que je me suis lancé dans la radio et dans l'astronomie. Et puis voilà, puis j'ai fait ça toute ma vie.
L'Observatoire de Meudon donc a été un lieu très actif au moment de 1968. Il y a eu un mouvement de réforme assez important auquel vous avez participé.
Il y a eu un mouvement de réforme assez important, oui, auquel j'ai participé effectivement, parce que à l'Observatoire de Meudon à cette époque-là, et à Paris c'était pareil, il y avait des gens qui faisaient des travaux d'astronomie, soit théoriques, soit expérimentaux, etc. Et quand ils atteignaient leur thèse d'État, eh bien, on estimait qu'ils formaient un groupe avec une ou deux personnes. Et donc, il y avait autant de groupes de recherche à l'Observatoire de Paris et à Meudon qu'il y avait de docteurs en sciences. Et avec la révolution, si on peut dire, en 68, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible de continuer comme ça, qu'il fallait faire des groupes beaucoup plus gros que ça, avec des techniciens, des chercheurs, des anciens, des nouveaux, etc. Et c'est là qu'on a créé les départements. Et puis, on a décidé aussi que la structure devait être démocratisée, à savoir que les directeurs de département devaient être élus et qu'ils devaient être contrôlés par des conseils scientifiques dans chaque département, qui devaient être aussi élus. Enfin, voilà ce qu'on a fait à l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Meudon. Et ça s'est révélé assez favorable dans l'ensemble pour le développement de l'Observatoire de Paris et de l'Observatoire de Meudon.
Ça correspondait déjà à une certaine pratique chez vous, puisque quand vous êtes, vous avez gagné le spatial, vous aviez cherché à ce que les théoriciens, les ingénieurs, les mécaniciens travaillent ensemble.
Oui, ben ça c'était une conception de la recherche que j'avais bâtie, mais c'est pas particulièrement original, mais enfin c'est quand même pas tellement répandu. Moi je considérais que on peut pas, c'est extrêmement difficile et extrêmement rare qu'un théoricien développe de la théorie sans liaison avec des observations. Alors je sais que ça existe, je sais que M. Einstein par exemple a fait de la physique théorique pendant toute sa vie avec énormément de succès sans travailler directement avec des observateurs. Mais moi je considérais que c'était les observations qui déclenchaient les problèmes, qui sortaient les problèmes que les théoriciens allaient ensuite développer au point de vue théorique. Et réciproquement, je pensais que les théoriciens pouvaient avoir des idées de recherche observationnelle. Et donc, quand j'ai monté petit à petit le groupe de radioastronomie à l'Observatoire de Paris, en particulier quand Denis a été nommé directeur de l'Observatoire de Paris, et donc j'ai pris la direction du département spatial, du département de radioastronomie, eh bien, j'ai embauché des tas de gens. À cette époque-là, il y avait des postes, ça n'a pas été le cas tout le temps, mais j'ai embauché des théoriciens, des ingénieurs, des techniciens de différents niveaux, et à qui j'ai toujours poussé à travailler ensemble. Et en fait, ils ont travaillé ensemble dans la grande majorité des cas. Ça a permis d'obtenir pas mal de résultats, je crois.
Mais c'était un mode de fonctionnement qui n'était pas répandu ailleurs dans l'observatoire.
Non, c'était un mode de fonctionnement qui n'était pas répandu à l'Observatoire de Paris. Mais enfin, bon, petit à petit, je pense que ça a dû se répandre quand même. Si vous voulez, quand on est arrivé faire de la radioastronomie à l'Observatoire de Paris, et en particulier quand on s'est lancé dans la recherche spatiale, parce qu'il y a des ondes radio de l'univers qui n'arrivent pas à la Terre parce qu'ils sont bloqués par la haute atmosphère, dans ce qu'on appelle l'ionosphère, quand leur fréquence est trop basse, elles n'arrivent pas à atteindre le sol. Donc si on veut quand même les étudier, il faut monter au-dessus de cette région-là avec des fusées et des satellites pour le faire. Eh bien, quand on est arrivé à l'observatoire, comme radioastronome ou comme spatiaux, plus ou moins, on a été, dans une certaine mesure, méprisé. On considérait que c'était de l'ingénierie, mais que ce n'était pas de la physique, ce n'était pas de l'astronomie. Et même l'espace, les gens ont considéré que c'était de la physique, c'était de l'ingénierie, quoi, et pas autre chose de plus. Alors évidemment, ça n'a pas duré indéfiniment. Aujourd'hui, tous les astronomes savent qu'on ne fait pas de l'astrophysique aujourd'hui sans étudier les résultats que la recherche spatiale permet d'obtenir. Alors effectivement, maintenant, on fait de l'astronomie non seulement avec de la lumière et de la radio, mais aussi avec les rayons gamma, avec les rayons X, etc., avec les particules. Et tout ce qu'on reçoit de l'univers, que ce soit des particules ou des émissions, eh bien, c'est utile pour étudier cet univers. Mais à l'époque, ce n'était pas exactement comme ça. Mais enfin, les choses évoluent, les choses changent. Et en particulier, la technologie fait que les choses changent. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire sur cette période-là.
Et après mai 68, on vous propose d'être président de l'Observatoire de Paris. On vous pousse.
Ah oui, aussitôt après la révolution, si on peut dire, de 68... on avait formé un groupe dont je ne me souviens plus du nom, peu importe, dans lequel il y avait toute une série de copains qui considéraient qu'effectivement il fallait changer pas mal de choses à l'Observatoire de Paris. Et au bout d'un certain temps, à la fin, si on voulait dire, de cette révolution, étant donné qu'on avait décidé qu'il fallait que les directeurs de département, etc., et si possible le président, soient plus ou moins élus et non pas parachutés par le ministère, et ce groupe m'a proposé d'être candidat à la présidence. Et alors, moi, je formais un couple très serré avec Madeleine, et j'en ai parlé beaucoup avec elle. Et je considérais, comme j'avais été élevé par une mère très féministe, que la moindre des choses dans un couple, c'était qu'on fasse tout en accord. Et j'ai demandé à Madeleine ce qu'elle pensait de devenir président de l'Observatoire de Paris. Et très vite, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Elle ne voulait pas aller vivre à l'Observatoire de Paris, elle ne voulait pas organiser des réceptions de gens très respectables, français ou étrangers, etc. Et en conséquence de quoi, eh bien, j'ai refusé d'être candidat à président. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais été élu, d'ailleurs, si j'avais été effectivement candidat. Mais en tout cas, j'ai refusé d'être candidat. Et je crois que c'est comme ça que Michel Combes a été élu président de l'Observatoire de Paris.
Et dans le groupe dont vous parliez, il y avait qui ? Michel Combes, par exemple ?
Ah oui, il y avait Michel Combes, mais je ne saurais pas vous donner une liste des gens qui étaient dans ce groupe. Je n'ai pas la moindre envie de le cacher, mais je ne me souviens plus de la liste. Je me souviens de Combes et moi, mais les autres, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de leur nom.
C'est pas très grave. Je pense qu'il y avait peut-être Jam Le Queux, justement.
Je ne sais pas si Jam Le Queux était déjà dans ce groupe. C'est possible qu'il l'ait été.
Donc, est-ce que vous pensez que 68, ça a vraiment changé le fonctionnement de l'institution, de l'Observatoire ?
Je pense que ça a changé certainement un certain nombre de choses, parce que, comme je vous l'ai dit, avant 68, aussitôt que quelqu'un avait passé une thèse d'État, avait soumis une thèse d'État, il faisait partie d'un groupe de recherche. C'était un groupe de recherche à lui tout seul ou à peu près, avec un technicien éventuellement, et c'était tout. Et nous, on a considéré que des groupes de recherche aussi étroits, autant de groupes de recherche qu'il y avait de docteurs et sciences, c'était pas possible. Qu'il fallait faire des équipes beaucoup plus solides que ça, que la technologie évoluait de façon fabuleuse, qu'il y avait des instruments de plus en plus grands et de plus en plus lourds et de plus en plus chers, et que ça ne pouvait pas être mené par des groupes d'une seule personne à chaque fois. Donc je crois qu'on a bien fait de faire ça. Mais quand on a fait ça, ce n'était pas une révolution, c'était simplement la constatation que les choses évoluaient et qu'il fallait en tenir compte dans la structure administrative de l'Observatoire. Il n'y avait pas besoin d'être génial pour comprendre ce genre de choses. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'avant 68, les choses marchaient sur une tradition déterminée. Le remue-ménage de 68 a permis de changer ça.
Vous avez travaillé, donc vous avez fait une très grande partie de votre carrière à l'Observatoire. Est-ce que vos réseaux d'amis étaient aussi à l'Observatoire, ou est-ce que c'était vraiment un pôle pour votre vie à la fois professionnelle et votre vie plus privée ?
Non, mais j'ai travaillé à l'Observatoire énormément. Énormément parce que c'était une passion. Et quand on a un métier qui était aussi une passion, eh bien, on y passe énormément de temps. Et j'ai l'impression d'avoir travaillé pendant 60 ans que j'ai travaillé à l'Observatoire. J'ai souvent travaillé 60 heures par semaine, alors qu'aujourd'hui, on parle couramment de 35 heures. Et je l'ai fait parce que c'était une passion. Et aujourd'hui, que ma femme a disparu, je me dis que j'ai été trop souvent absent de la maison et que j'ai travaillé trop d'heures et trop de temps et que, du coup, j'ai probablement pas été suffisamment près d'elle et près des enfants. Mais c'est trop tard. Il n'y a rien à faire. Quand c'est une passion, c'est une passion et c'est tout. Alors maintenant, je me pose des problèmes, mais quand on perd une compagne de 62 ans, on finit, même si on a l'impression qu'on a été très heureux et qu'elle a aussi été très heureuse, on se pose des problèmes sur le passé en se disant est-ce que j'ai toujours fait ce qu'elle méritait, est-ce que je me suis toujours comporté comme je devais, etc. Et ce n'est pas spécialement personnel. Je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui sont veufs ou veuves et ils ont les mêmes problèmes que moi. On se ravage pour le passé, en se disant, dans telle et telle circonstance, est-ce que j'ai été à la hauteur des circonstances, est-ce que j'ai bien fait ce que l'autre attendait, etc. Bon, donc, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est, quand vous perdez votre compagne comme ça, vous découvrez une nouvelle forme de vie, des jours qui passent de façon entièrement différente. Et ça n'est pas spécialement personnel, c'est un cas absolument général.
Mais Madeleine a quand même, vous a à partager votre vie scientifique de manière quand même assez importante. Vous avez même travaillé ensemble.
Madeleine n'était pas scientifique. Elle avait une culture littéraire, mais elle avait surtout une culture linguistique. Et d'abord, Madeleine était née en Angleterre, d'une mère française et d'un père anglais. Et le père et la mère ont divorcé quand elle avait un an ou deux. Et comme ma belle-mère, la mère de Madeleine, était profondément catholique, elle n'a jamais voulu divorcer. Ils se sont séparés, mais elle n'a jamais voulu divorcer. Donc elle a gardé la nationalité britannique et sa fille a gardé la nationalité britannique. Ils sont rentrés vivre en France, très mal d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés. Et pendant l'occupation, quand les Allemands ont envahi la France, ils ont interné dans des camps d'internement tous les citoyens ennemis. C'est d'ailleurs tous les citoyens de nationalité anglaise. Et c'était tout à fait admis par la Croix-Rouge internationale. D'ailleurs, les Anglais ont fait pareil avec les citoyens allemands qui vivaient en Angleterre. On considérait que les citoyens ennemis devaient être internés de telle façon qu'ils ne puissent pas être espions, etc. Bon, alors Madeleine a été internée pendant toute l'occupation à Vittel, dans un camp d'internement. Et il y a rencontré une dame qui était une princesse russe, d'ailleurs, et qui parlait russe couramment et l'anglais couramment. Et Madeleine a appris le russe aussi là. Et après la guerre, après avoir été libérée de Vittel, après un passage en Angleterre, etc., elle a suivi des cours de russe aux langues orientales pour avoir les diplômes français de russe. Résultat, Madeleine était trilingue. Elle parlait le français, l'anglais et le russe. Et elle pouvait passer du français à l'anglais, du anglais au français, et de la même façon de l'anglais au russe, qui était moins fréquent. Et d'ailleurs, on a été en Union soviétique avec elle plusieurs fois, et elle parlait russe absolument couramment. Bon, alors, quand j'ai commencé à donc travailler à l'Observatoire de Paris, et à l'Observatoire de Paris, il y avait en France, la France se payait trois journaux d'astronomie. Alors, il y avait les Annales d'astrophysique, il y avait le Journal des observateurs, et il y avait, je ne sais plus comment s'appelait le troisième.
Le Bulletin astronomique.
Le Bulletin astronomique. Bon, alors ces trois journaux astronomiques étaient dirigés par trois astronomes différents. Ils avaient en principe un rôle différent et ils étaient publiés mais pratiquement uniquement en français. Alors il y avait un rédacteur en chef pour chacun de ces trois journaux et les Annales d'astrophysique étaient dirigées par un garçon qui s'appelle Jean-Claude Péquer, qui est un copain d'ailleurs avec lequel je m'entends très bien et que je vois assez souvent. Et Jean-Claude Péquer avait été rédacteur en chef des Annales d'astrophysique pendant 5 ou 6 ans. Et au bout de 5 ou 6 ans, il avait envie de faire autre chose. Alors il a cherché quelqu'un pour le remplacer. Alors il a dû prendre contact avec pas mal de gens et il a finalement pris contact avec moi. Et il me dit, voilà, tu devrais prendre ce truc-là. Moi, j'en ai assez de faire ce métier. Est-ce que tu voudrais être rédacteur en chef des Annales d'astrophysique? Et j'y réfléchis. J'en ai parlé avec Madeleine, bien entendu. Et finalement, nous avons dit oui. Et j'ai accepté d'être rédacteur en chef des Annales d'astrophysique pour deux raisons essentielles. D'abord, c'était la belle aventure. C'était faire quelque chose que je n'avais jamais fait et apprendre à faire des tas de choses que je n'avais jamais faites. Et ensuite, je me suis dit que j'aurais besoin d'une secrétaire scientifique et que j'allais embaucher Madeleine pour ce faire. Alors, on a demandé un poste au CNRS, on nous a donné un poste et Madeleine a occupé ce poste de secrétaire scientifique d'une revue scientifique. Alors, le poste de secrétaire scientifique, ça veut dire... D'abord, prendre tous les manuscrits et voir qu'ils sont dans un état tel qu'on peut l'envoyer dans une imprimerie. Ensuite de ça, de suivre l'impression. Ensuite de suivre la distribution du journal, comment il est lu, etc. Donc, c'est un métier. Et d'autre part, s'adresser aux différents auteurs. Bon, alors les auteurs, en fait, ils publiaient tous en français, mais il y en avait qui venaient de n'importe où dans le monde. Et par conséquent, la possibilité qu'elle avait de parler couramment le français, l'anglais et le russe, c'était extrêmement utile. Alors nous avons fait ce métier pendant 5 à 6 ans. C'est-à-dire que j'ai accepté de prendre ce journal, je crois bien que c'était en 63. Et nous avons fait ce métier, Madeleine et moi, pendant 5 ou 6 ans. Or, à cette époque-là, je m'étais déjà lancé dans la recherche spatiale. Et par conséquent, comme j'étais responsable d'un département de recherche spatiale, j'étais extrêmement occupé. Et il a fallu que je m'occupe aussi du journal. Bon, alors je me suis occupé du journal. Mais ça veut dire que pendant toutes ces périodes-là, on a travaillé beaucoup la nuit, beaucoup le jour et beaucoup les week-ends, Madeleine et moi. Et on a fait ce travail pendant 5 ans, le mieux possible, 5 ou 6 ans. Et au bout de 5 ou 6 ans, c'était en 68, 69, on avait fait ce travail pendant 5 ou 6 ans, on s'est posé le problème de savoir à quoi servait cette activité débordante qu'on avait eue pour faire développer ce journal. Alors, pour savoir à quoi sert un journal, il n'y a pas 36 solutions. Il faut savoir comment les articles publiés dans ce journal sont utilisés, comment ils sont donc cités par d'autres auteurs. Bon, alors, on s'est dit, bon, ben, il faut aller voir on peut trouver, c'est une liste des citations quelque part. Alors, en France, ça n'existait pas, mais ça existait en Amérique. Et en Amérique, il existait un bouquin qui paraissait tous les ans, ou à peu près, qui s'appelait le Science Citation Index, c'est-à-dire l'indice des citations de scientifiques. Alors, j'ai été à l'observatoire, l'université d'Orsay, et à la bibliothèque d'Orsay, j'ai trouvé le Science Citation Index. Et nous y avons été ensemble, Madeleine et moi, et nous avons commencé à feuilleter les pages et essayer de compter le nombre de citations. Et en fait, on n'a pas pu compter le nombre de citations des annales d'astrophysique parce que les annales d'astrophysique n'étaient pas analysées dans le Science Citation Index. C'était considéré comme un journal négligeable, qui plus est, était majoritairement en français, même uniquement en français, et donc il ne comptait pas les citations. Donc on a été obligé de chercher nous-mêmes, tout seuls, avec nos propres moyens, dans les revues américaines courantes, c'est-à-dire les Astrophysical Journal, les mathématiques anglaises, etc. Et on est allé là-dedans et on a compté les citations des revues françaises, ou plutôt des annales d'astrophysique. Et on n'a trouvé pratiquement pas de citations. Donc ça voulait dire que les annales d'astrophysique ne servaient qu'aux Français et n'étaient citées que par des Français. Or, déjà à cette époque-là, la science était largement internationale. Par conséquent, il fallait fatalement envisager de modifier la situation. Alors, il s'est trouvé que Jean-Claude Péquer avait été contacté par les Hollandais, qui avaient leur propre journal, en anglais d'ailleurs, qui s'appelait je ne sais plus comment il s'appelait, enfin, peu importe, en tout cas, leur propre journal hollandais, mais publié pratiquement qu'en anglais. Et ils avaient proposé à Jean-Claude Péquer de fusionner leur journal hollandais avec les annales d'astrophysique. Et pour différentes raisons que je ne connais pas vraiment, Jean-Claude Péquer avait refusé cette fusion. Et alors, moi, je me suis dit, bon, bah, étant donné qu'on voit que la citation de l'annale d'astrophysique sont pratiquement nulles, il faut envisager de fusionner avec les Hollandais. Alors, comme les annales d'astrophysique et les deux autres journaux étaient financés par le Centre national de la recherche scientifique, par le CNRS, il a bien fallu avoir l'appui du CNRS pour ce faire. Alors, on a réuni, on a fait une réunion d'astronomes, à cette époque-là, autant qu'on a pu, parce qu'il y avait la grève dans les chemins de fer. Et au cours de cette réunion, on a expliqué à ces gens-là qui étaient là que, en fait, les annales d'astrophysique n'étaient jamais citées. Et on leur a dit, ben voilà, nous, on pense qu'il faudrait fusionner avec le journal hollandais. Et ils ont approuvé. À ce moment-là, il a fallu que le CNRS donne son approbation ou sa désapprobation, puisque c'était lui qui finançait le journal. Donc on a fait une réunion avec un certain nombre d'académiciens, physiciens et astrophysiciens, plus le directeur adjoint du CNRS qui est venu là. J'ai fait un exposé du taux de citation des annales d'astrophysique en proposant qu'on fusionne avec le hollandais. Et tous les gens qui étaient là, et en particulier les rédacteurs en chef des deux autres journaux français d'astronomie, ont dit oui, absolument, il faut accepter de fusionner les annales d'astrophysique. Alors, quand le directeur adjoint du CNRS a entendu ça, il a dit, bon, écoutez, messieurs, puisque vous êtes d'accord de fusionner les annales d'astrophysique avec le hollandais, eh bien, moi, je vous donne un accord, vous donne l'accord du CNRS, mais j'exige que les deux autres journaux français soient fusionnés en même temps. Les trois journaux français plus le journal hollandais. Bon, alors, on a fait comme ça, bien entendu, et on a créé Astronomy and Astrophysics. Et pour créer Astronomie et Astrophysique, il fallait évidemment un imprimeur, un éditeur capable de produire le journal. Alors on a lancé un appel d'offres. Et l'appel d'offres a été lancé en Angleterre, en Allemagne, en France, en Hollande, etc. On a eu des tas de propositions de différents éditeurs. Mais il y en a un qui a attiré notre attention plus que tous les autres. C'est celui qui a été proposé par les Allemands, par Springer. Et Springer nous a dit, bon, ben... on accepte de prendre le nouveau journal et si vous nous choisissez, on fusionnera notre propre journal qui s'appelle Zeitschrift für Astrophysique avec les autres journaux. Et ça a décidé, du coup on a décidé de prendre Springer. Et du coup, le nouveau journal, Astronomie et Astrophysique, il fusionnait les trois journaux français, le journal hollandais et le journal allemand. Et ensuite, on a fusionné des quantités d'autres. Bon, alors la première année, en 69, les annales d'astronomie et astrophysique, ça a sorti trois volumes de 2 cm d'épaisseur à peu près. Et petit à petit, ici est agglutiné des tas de journaux européens et maintenant des journaux d'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, Astronomie et Astrophysique publie un de ces volumes de 3 cm d'épaisseur par semaine. C'est devenu un hebdomadaire. Et c'est un journal qu'on ne peut plus ignorer quand on fait de l'astrophysique. Donc je crois qu'on n'a pas perdu son temps à faire ce genre de choses. Et nous avons géré ce journal avec l'ancien directeur, l'ancien responsable du journal hollandais, qui s'appelait Stuart Potash, et à deux, avec Madeleine et une secrétaire hollandaise aussi, on a géré Astronomie et Astrophysique pendant environ 5 à 6 ans. Et au bout de 5 à 6 ans, eh bien, on a décidé de faire autre chose aussi. Donc on a été remplacé, et on a été remplacé par Jam Lequeux, qui a pris le journal. Et puis ensuite, ça s'est développé au cours du temps.
Et Madeleine a également abandonné.
Madeleine a travaillé avec Lequeux pendant un bon bout de temps. Et puis, au bout d'un certain temps, je crois que Lequeux a renoncé aussi pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Et Madeleine est partie de l'Institut d'astrophysique où elle a fait encore du secrétariat scientifique. Voilà.
Pour ce qui concerne les... Vous avez une longue carrière. Quels sont les hommes qui vous ont marqué? Vous avez travaillé beaucoup en collaboration, sur des projets, sur des instruments. Il doit y en avoir beaucoup, peut-être trop. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, hein, bien sûr.
Comme je vous l'expliquais, quand on a démarré la radioastronomie, il y avait Blum et Denis. Et ensuite de ça, il y a eu Lequeux, puis ensuite il y a eu Leroux, et puis il y en a une série d'autres dont je ne me souviens plus des noms pour ne rien vous cacher. Et puis, quand je me suis lancé dans la partie, l'application spatiale, ce genre de choses, comme ça, c'est beaucoup plus récent, puisque ça a commencé en 65 ou 66, que je me suis lancé dans l'espace, alors là, je me souviens beaucoup plus des noms. Et en particulier, j'ai embauché des ingénieurs. Il y en avait un qui s'appelait René Knoll, un qui s'appelait Gérard Epstein. J'ai embauché un ingénieur mécanicien qui s'appelait Marcel Paris. Et puis, j'ai embauché des secrétaires ou des administrateurs, en particulier Michel Boischaud, la femme d'André Boischaud, qui était un physicien solaire. Et puis, un ancien militaire, dont je me souviens plus du nom pour ne rien vous cacher. Et puis, j'ai embauché beaucoup de chercheurs, sur la plupart du temps des débutants. Et il y avait en particulier André Mangenet. Et puis, un monsieur qui s'appelait Monsieur Meyer. Et une jeune femme qui s'appelait Nicole Vernet, qui a épousé M. Meyer par la suite. Et puis voilà, à vrai dire, je ne me souviens plus d'autres noms. Mais j'en ai embouché une douzaine ou plus même. Mais le fait que je ne me souviens pas de leur nom, simplement. C'est pas du tout que j'ai la moindre haine ou la moindre difficulté avec eux.
Vous avez été attiré vers la science par un ouvrage de vulgarisation, hein, La vie de Marie Curie. Est-ce que vous avez eu des activités de vulgarisation scientifique, de diffusion de l'information scientifique et technique, comme on dit?
Oui, avec Lequeux, on a écrit un bouquin qui s'appelait Radioastronomie et qui a été publié. Et visiblement, il a eu un certain succès parce qu'il a été traduit en anglais et en russe. Mais alors j'en ai un certain nombre d'exemplaires ici, bien entendu. Il est aujourd'hui totalement périmé, comme de bien entendu. Et bon, c'est tout. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de bouquins de radioastronomie quand on a publié ce livre-là. Et le livre a eu une préface de M. Donjon. Et puis, c'est tout. Et alors, il a été analysé dans ses différentes revues internationales, etc. Mais il était en français. Et il a été traduit en Amérique par un collègue américain qui s'appelle Bresswell, Ron Bresswell, que j'ai beaucoup connu et qu'on a beaucoup causé. Et un jour, les Soviétiques, à l'époque, ils nous ont envoyé 5 ou 6 exemplaires de la version soviétique. Et ils n'avaient jamais demandé l'autorisation à personne de traduire, ni rien du tout. Ça, c'était l'Union soviétique. Les Américains avaient demandé l'accord de l'éditeur français. Je suppose même qu'ils avaient plus ou moins payé, mais je ne veux pas le savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Soviétiques, ils ont pris le bouquin en français ou en anglais, je sais pas, je crois qu'ils l'ont traduit à partir du français. Et il y a donc une version soviétique. Et j'en ai un exemplaire ici. Mais c'est complètement périmé, bien entendu.
C'est un livre aussi qui relate la naissance de la radioastronomie en France.
Oui, oui, absolument. Oui. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'histoire dans ce bouquin-là. C'est le livre qu'on a écrit, c'est un traité de radioastronomie. Si vous voulez, on explique les problèmes techniques, les problèmes de physique des plasmas, etc., les résultats qui avaient été obtenus à cette époque-là. C'est un livre largement scientifique quand même. D'ailleurs, il y a des tas de formules là-dedans. Enfin, ce n'est pas vraiment destiné à n'importe qui. C'est destiné à quelqu'un qui veut étudier l'aspect scientifique de la radioastronomie, quoi.
Et quand vous avez quitté la recherche, quand vous êtes parti en retraite, vous avez envisagé de publier des articles sur votre carrière scientifique, à destination du grand public, par exemple?
Bon, j'en ai publié, j'en ai publié dans des revues de vulgarisation, parce qu'il y a des gens qui s'intéressaient à différents aspects du développement de l'astronomie et de la radioastronomie, y compris la radioastronomie spatiale. Parce que pour faire de la radioastronomie, on a créé la station d'observation à Nancy, à 200 km au sud de Paris. Et évidemment, c'est une chose qui se voit. Ça se voit plus qu'un télescope même. Donc il y a eu des articles dans les journaux à ce point de vue-là. Et au bout d'un certain temps, on nous a demandé des articles de vulgarisation pour les revues de grand public sur pourquoi on avait fait ça, comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait eu comme résultats principaux, etc. Et le queue en a fait pas mal, moi j'en ai fait aussi, il y a certainement d'autres camarades, Denis en a fait aussi, parce que c'est très utile que le français moyen sache comment la science se développe dans son pays ou ailleurs, et surtout quand il y a des résultats importants. Donc on a tous écrit plus ou moins des articles sur ce qu'on faisait. Mais c'est la moindre des choses de faire ça.
Et sur le spatial, sur les missions spatiales auxquelles vous avez participé, il y avait également une activité de... Évidemment, on pense immédiatement aux missions Apollo qui ont eu un énorme impact médiatique. Est-ce que les missions spatiales étaient aussi relayées par des articles dans
la presse ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu des articles sur les expériences qui ont été menées par des Français sur des vaisseaux spatiaux, alors soit sur des fusées, etc. Et ensuite, quand les recherches spatiales sont devenues de plus en plus chères, parce qu'on a envoyé des équipements de plus en plus perfectionnés, le plus loin, de plus en plus loin, il y a eu des quantités de coopération internationale. Par conséquent, comme nous avons collaboré avec les Américains, avec la NASA, et nous avons collaboré avec les Soviétiques aussi. Mais alors, quand il y avait des missions particulièrement spectaculaires, surtout quand il y avait des hommes à bord, ça faisait l'objet de publications. Mais je ne me souviens pas d'avoir fait des publications sur des choses auxquelles je n'avais pas participé personnellement. Donc, c'est tout.
Et quelles ont été les publications qui, importantes que vous avez pu faire sur le point de vue scientifique cette fois? Pas forcément de manière précise, mais est-ce que par exemple il y avait une pression? Est-ce que vous étiez tenu de publier régulièrement? Est-ce que...
Non, moi j'ai pas souvenir de choses de ce genre. J'ai publié en tout et pour tout probablement environ 60 articles au cours de toute ma carrière scientifique. Et la chose importante, c'est qu'il n'y a que 3 ou 4 de ces articles où je suis le seul auteur. Dans tous les autres, j'étais en commun avec des camarades de français ou étrangers. Et dans la plupart de ces autres articles, j'étais même pas le premier auteur. Donc j'ai travaillé en équipe. J'ai travaillé en équipe toute ma vie. Et pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que c'est plus possible de faire de la science en tant qu'individu séparé des autres. Et puis ensuite de ça, parce que la recherche spatiale en particulier est devenue de plus en plus lourde, et de plus en plus onéreuse et de plus en plus complexe. Et par conséquent, on était obligé de travailler avec d'autres équipes. Donc pratiquement tout ce que j'ai publié, ça a été toujours en équipe. Voilà.
Vous avez parlé de votre engagement très jeune dans le Parti communiste au moment de la résistance. Oui. Est-ce que ça a été un engagement constant dans votre vie? Est-ce que ça a interféré avec votre vie professionnelle, par exemple?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'occupation, la vie en France était devenue extrêmement dure. Comme vous savez, il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Et en plus de ça, comme j'étais étiqueté comme juif parce que j'avais des grands-parents qui étaient de religion juive, parce que c'est comme ça qu'on définissait un juif de race, parce qu'il avait des parents ou des grands-parents de religion juive. Et moi, j'avais un certain nombre de grands-parents qui étaient de religion juive, et c'est comme ça que mon père est allé nous inscrire au commissariat de police comme juif. Et c'est comme ça qu'on a été d'ailleurs arrêtés et déportés. Bon, et moi, j'étais révolté par le sort qui était fait à mon pays en général et aux gens étiquetés comme juifs en particulier. Et donc, j'étais prêt à rentrer en résistance. Alors, quand on est dans une situation comme la France sous l'occupation, il y a trois attitudes possibles chez un individu. Il y a une attitude que je qualifierais d'attentiste. C'est pas une critique de dire ça, mais c'est le comportement de la grande majorité des Français. Ils ont espéré que ça ne durerait pas indéfiniment, ils ont espéré qu'un jour ou l'autre, on s'est libéré par les Alliés, etc. Et en attendant, ils essayaient de faire face quotidiennement aux difficultés effroyables de la vie quotidienne. En plus de ça, il y a une certaine proportion très faible de la population française qui a accepté de collaborer avec les Allemands, collaborer même avec la Gestapo. D'ailleurs, quand on regarde les archives de l'époque, on constate qu'il y a eu des millions de dénonciations faites en France. Bon, et puis la troisième attitude, ça consiste à rentrer en résistance. Bon, eh bien, moi, mon tempérament m'a porté à rentrer en résistance. Alors, pour rentrer en résistance à cette époque-là, on ne pouvait pas se promener dans les rues, aborder un homme ou une femme en lui disant « Est-ce que vous seriez par hasard dans la résistance ?» Parce que si cette personne l'était, elle se garderait bien de vous le dire, puisque c'était puni de mort, en fait. Par conséquent, j'ai été obligé d'attendre. Et en fait, j'ai été contacté par un communiste à la fin de juin 1941. Et ce communiste, qui s'appelait Jean, et Jean est venu me voir, et il m'a dit, écoute Jean-Louis, etc., etc. Je lui ai dit, mais Jean, c'est bien gentil, t'es indigné comme moi, t'es révolté comme moi, mais comment tu fais pour rentrer en résistance? Il m'a dit, écoute, moi, je suis rentré en résistance avec le Parti communiste français. Et il a ajouté, si tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu. Et au bout de quelques minutes, il a ajouté, mais tu devrais réfléchir parce que tu es en danger plus que nous, parce que tu es étiqueté comme juif. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite parce que j'étais révolté par le sort qui nous était fait. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Bon, alors j'ai fait partie d'une résistance pendant toute l'occupation. Mais en fait, je ne me suis pas battu avec les armes. J'en ai transporté, ce qui était presque aussi dangereux que de s'en servir. Mais j'ai surtout fait de la propagande. C'est-à-dire que j'ai rédigé des tracts, je les ai distribués comme j'ai pu. Et voilà, on exhorçait les autres Français à refuser Vichy, à refuser le sort qui était forcé, qui nous était fait par les Allemands, etc. Et voilà ce que j'ai fait pendant toute l'occupation. J'ai aussi recruter pas mal de jeunes dans les auberges de jeunesse, des jeunes de mon âge. Mais je n'ai pas été arrêté à ce titre-là. J'ai été arrêté comme juif chez moi, chez nous, pardon. Voilà. Et alors j'ai été déporté à Auschwitz, comme vous savez probablement. Et là-bas, j'ai été détecté par la résistance d'Auschwitz, qui était largement communiste. Ce qui fait que je suis rentré dans la résistance communiste d'Auschwitz-Monowitz. Et ces gens-là m'ont sauvé la vie, parce qu'ils avaient les moyens de me sortir d'une équipe de travail de force où j'étais certain de crever en quelques semaines, parce qu'on ramenait des morts tous les jours du boulot. Et ils m'ont mis dans une équipe de travail beaucoup plus léger, qui travaillait à l'usine, où on fabriquait des petites pièces métalliques avec ses mains, et un mouton, un marteau, etc. Et là, j'étais à l'abri du froid d'abord. En hiver, en Pologne, il fait très froid. Et non seulement ça, mais je ne faisais pas d'efforts physiques qui gaspillaient de la nourriture. Et c'est comme ça que j'ai survécu. La résistance du camp m'a sauvé la vie.
Donc quand vous êtes rentré en France, vous avez continué cet engagement.
Je suis resté au Parti communiste, comme Madeleine, qui était aussi communiste. Et nous y sommes restés, je crois, jusqu'en 1953. Et en 1953, c'était un jour où je militais, et en particulier, je vendais le journal du Parti communiste qui s'appelle L'Humanité sur la place d'Alésia. Et alors j'ai ouvert le journal qu'on m'avait donné à vendre et j'ai constaté à la page 3 de ce journal qu'il y avait un article extrêmement violent de la secrétaire, d'une de la femme du secrétaire général du Parti communiste qui s'appelait M. Maurice Thorez. Et elle s'appelait Mme Vermersch. Et Mme Vermersch dénonçait un bouquin d'un M. Derogy qui venait de paraître. Et ce bouquin s'appelait « Des enfants malgré nous ». Et ce M. Derogy demandait qu'on élimine en 1950 ou 60 les lois qui avaient été promues après la Première Guerre mondiale pour favoriser les naissances et empêcher les gens d'utiliser de la contraception. Et alors, moi, j'étais révolté par ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai quitté le parti. Et je suis rentré à la maison avec les quelques le journal que j'avais gardé, un de ces numéros de l'Humanité. Et je l'ai montré à Madeleine et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Elle me dit « Mais c'est pas possible, on peut pas rester au parti dans ces conditions. » Je lui ai dit « Écoute, j'ai déjà rendu ma carte, tu fais ce que tu veux. » Et on a quitté le parti là, à ce moment-là. Et j'ai pas de honte d'avoir été membre du parti pendant l'occupation, mais je pouvais pas m'accommoder de cette situation-là. Et d'autre part, on était extrêmement sensibilisés aux problèmes de contraception. Parce que comme Madeleine était d'origine anglaise, on avait accès à la contraception britannique, donc on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Madeleine allait voir des amis en Angleterre plusieurs fois par an, elle ramenait à chaque fois des contraceptifs anglais, pour hommes ou pour femmes, et elle le distribuait en France à des tas de gens qui étaient bien contents de les avoir. Et donc on ne pouvait pas admettre une conception pareille.
Ce féminisme, qui est une forme d'engagement, a été quand même assez important pour vous. Par votre éducation, vous avez épousé une femme qui était également très féministe.
Oh ben, elle était communiste, c'est par hasard. Hein. Je l'ai rencontrée aussitôt après la libération. J'étais militant fervent. Et je m'agitais dans la section du Parti communiste qui était en bas de chez nous, dans le 14e arrondissement. Et un jour, il est rentré dans ce bâtiment, dans cette boutique, trois soldats américains en uniforme. Et il parlait évidemment que l'anglais. Alors moi, j'avais fait de l'anglais en classe, mais après la déportation, j'avais perdu beaucoup de mémoire, donc mon anglais était très médiocre. Et ces gars-là étaient des communistes américains, des soldats communistes américains. Ils voulaient causer avec des communistes français. Alors j'ai commencé à causer avec eux. J'ai bien vu que mon anglais n'était pas à la hauteur. Alors je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui parle anglais couramment. Et j'ai pensé à cette fille que j'avais rencontrée une fois ou deux par le plus grand des hasards, qui s'appelait Miss White. Alors je l'ai contactée. Et j'ai dit, voilà, je suis communiste. Et alors elle m'a dit, moi aussi. Et du coup, on a communiqué avec ces soldats américains pendant un certain nombre d'heures, peut-être même plusieurs jours. Et ensuite de ça, on a commencé à sortir ensemble et on est allé au théâtre, on est allé beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre, on a été énormément au théâtre. On a beaucoup discuté de nos passés respectifs, de ce qui nous intéressait dans la vie, de nos cultures différentes, de la vie de nos parents, etc. Et finalement, un jour, je lui ai proposé de vivre ensemble et elle a dit oui tout de suite. Et on est venu vivre ensemble dans l'appartement de mes parents, qui était complètement vide. Et on s'est installé là-dedans et on a vécu ensemble pendant environ 6 mois. Et au bout de 6 mois, je lui ai proposé de l'épouser. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Alors je lui ai dit, écoute, moi, le mariage, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis prêt à vivre avec toi dans n'importe quel contexte. Mais nous avons beaucoup causé d'avoir un jour ou l'autre des enfants. Et on a décidé qu'on en aurait un certain nombre. Et moi, je ne veux pas que nos enfants soient traités de bâtards toute leur vie parce qu'ils sont fils ou filles de parents non mariés. Et à cette époque-là, c'était effectivement le cas. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, quelquefois. Et du coup, elle a accepté de se marier. Alors on s'est marié à la mairie du 5e. Et ça a duré 62 ans.
J'aurais une dernière question à vous poser parce qu'on a fait, je pense qu'on a, on a fait vraiment beaucoup, on a dit beaucoup de choses. Quand vous avez quitté la recherche, comment ça s'est passé?
J'ai quitté la recherche, à mon avis, en 2004, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 ans. Et j'ai quitté la recherche parce que, d'abord, je me rendais compte que je n'arrivais plus à suivre l'évolution de la recherche. Et j'arrivais plus à suivre le développement de l'informatique non plus. Et d'autre part, je voyais bien que le département ou le LESIAC, c'est devenu par la suite, on y embauchait de plus en plus de jeunes chercheurs et qu'il fallait leur faire de la place physique. Et moi, j'occupais un bureau, mais je n'ai pas été poussé dehors. J'ai continué à faire de la recherche, j'ai encore continué à publier pendant bon nombre d'années, mais j'ai considéré que ce n'était plus mon rôle de rester là-dedans. Et en fait, le fond du problème, c'est que je considère qu'on ne peut pas être et avoir été. Et quand on atteint 82, 83 ans, on n'est plus bon à faire de la recherche de pointe. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais j'ai considéré que je ne faisais pas exception. Donc, j'ai quitté le labo. Et je n'ai pas de regret de l'avoir fait. J'y vais de temps en temps. J'ai encore un certain nombre d'amis là-bas. Mais quand je vais là-bas, je constate que je ne connais plus personne. Parce que tous les gens que j'ai connus, ils ont tous été remplacés ou ils sont morts. Et il n'y a plus que des jeunes gens qui sont là. Mais c'est très bien comme ça. Ça prouve que le labo est vivant. Donc, je n'ai pas à me plaindre de ça. Et en fait, j'y vais de moins en moins. Mais j'y vais encore de temps en temps. Mais je vous dis, j'y connais pratiquement plus personne. Donc, je n'ai pas de raison d'aller me traîner là-bas dans les couloirs, alors qu'en fait, je ne connais plus personne. Mais tout ça est tout à fait normal.
Quel regard vous portez sur la recherche astronomique actuelle?
Ah, j'en sais rien. Je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas le développement de l'astronomie aujourd'hui. Je ne lis pas de revues scientifiques. Non, c'est terminé.
Et vous avez coupé.
Oui, c'est terminé. On ne peut pas être et avoir été.
J'aurais une question à vous poser sur vos archives. Vous avez laissé des documents, des papiers, des notes, des archives liées à votre activité de directeur de département, par exemple, ou à votre activité de chercheur, vous les avez déposés?
Non, je n'ai rien gardé. Tout ce que j'avais dans mon bureau là-bas, ça a été repris principalement par Sang Wang, qui est un garçon d'origine vietnamienne, mais qui a fait sa thèse en France avec moi d'ailleurs, et dont la femme est d'origine française. Et c'est lui qui a récupéré toutes ces archives et il les a mis dans un bâtiment ou dans une pièce déterminée du département et dans lesquelles il y a tout ce qu'on a trouvé dans mon bureau. Alors, il doit y avoir des tas de bouquins, il y a probablement un certain nombre de manuscrits, il y a des comptes rendus de réunions à différents niveaux, à différentes époques, etc. Mais je n'ai rien gardé avec moi. Je n'ai rien gardé chez moi. C'est pas à moi de décider ce qu'il faut garder et pas garder sur ce genre de choses. Et alors, il y a peut-être des choses qui peuvent servir, et puis il y a certainement des choses qui ne doivent pas servir, donc il faut les balancer. Bon, mais je ne me suis pas occupé de ça. J'ai éliminé, avant de quitter mon bureau, j'ai éliminé un certain nombre de choses dont je voyais qu'elles ne servaient plus à rien. Bon, mais tout le reste, j'ai laissé.
Quelles choses, par exemple, semblaient inutiles?
Écoutez, je ne me souviens plus vraiment, mais probablement des comptes rendus très anciens. Des réunions où il ne s'est rien passé d'important, ou des trucs comme ça. Et j'ai commencé par en liquider, et puis finalement j'ai renoncé à liquider, et j'ai laissé tout le reste. Et mes petits camarades ont fait le travail. Bon.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions qu'on aurait pu aborder et que...
Ensemble, vous et moi?
Oui, ensemble.
Bah écoutez, je ne crois pas, parce que je crois qu'on en a abordé déjà beaucoup, et que ça va vous occuper des heures de texte. Enfin bon, pour le moment, je ne vois pas de choses à ajouter.
Écoutez, je vous remercie pour cet entretien.
Je crois plutôt qu'il faudra éliminer des choses parce qu'il y a une quantité invraisemblable de choses là-dedans. Et comme vous m'avez posé beaucoup de questions dans l'ensemble intelligente, j'ai répondu à beaucoup de questions. Donc il y a énormément de choses là-dedans. Et je ne suis pas sûr que ça soit utile pour des siècles et des siècles. Mais enfin bon, vous déciderez.
Et je vous remercie.
Ben, je vous en prie.